الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. Mes chers frères en islam, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat al-Buruj: la riposte de ton Seigneur est redoutable. C'est lui certes qui commence la création et la refait, et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir après la salat al-Isha pour parler quelques instants, faire le tafsir, enfin faire le tafsir, essayer de transmettre le tafsir qui a été fait par les mutaqaddimin, par les mashaykh, par les ulama sur les versets du Coran. Et nous sommes bientôt à la fin du surat al-Buruj qu'on avait commencé il y a quelques temps. Et nous en sommes au point où Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, il annonce que sa punition est sévère. Et ce verset est en relation directe avec les versets qu'on avait vus avant, qui citaient le cas de, par exemple, Ashab al-Ukhdud, le cas de ces personnes, de cette population qui avaient foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qui, à cause de leur foi, ont été persécutés. Et ils ont été tués, torturés, hommes, femmes, enfants, parce qu'ils ne voulaient pas abandonner cela, ilaha illallah. L'histoire d'Ashab al-Ukhdud est beaucoup plus longue, on n'a pas beaucoup développé. Je ne sais pas si à la fin du Surat al-Buruj on va revenir sur l'histoire ou non. De toute façon, dans pas mal de livres, les histoires du Coran, il y a l'histoire d'Ashab al-Ukhdud, ça prendrait beaucoup de temps pour développer. On essaie plutôt, parce qu'il y a différentes façons d'aborder le tafsir, on peut aller dans tous les points cités de le verset, ou alors on peut donner priorité à l'ensemble des versets et le sens qui se dégage des versets. C'est plutôt notre manière d'aborder le sujet. Et donc, on continue avec, donc, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué qu'à une époque, il y a eu des gens qui ont été donc persécutés de leur foi, et on avait fait la relation avec toutes les personnes qui meurent et qui perdent leur vie à cause du iman. Et on avait expliqué également que quelle est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque une personne est persécuté dans sa foi et qu'un oppresseur, que ce soit un tyran, un chef d'État ou un chef d'armée, d'accord, est le dessus et l'opprime, et que la personne, que le chef d'État, l'oppresseur meurt honoré et que le musulman meurt déshonoré. On avait expliqué qu'il y a trois choses. La première chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse cet oppresseur, ce tyran, cet assassin, on pourrait dire, s'ensevelir dans ce péché. Allah Ta'ala laisse cette personne ancrée dans cette erreur, dans ce péché, et s'enfoncer de plus en plus. Et cela nous amène vers la deuxième raison, la deuxième hikmah, c'est que pour le jour des comptes, Allah Ta'ala va le punir d'une punition exemplaire. Et on avait expliqué, je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs, on avait dit quelles seront le jour de la résurrection, les questions insoutenables qu'Allah subhanahu wa ta'ala posera au amir, posera au dirigeant, au chef d'État, à celui à qui Allah azza wa jal avait donné le pouvoir, concernant l'équité qu'il aurait fait preuve ou qu'il n'aurait pas fait preuve avec ces sujets. Et on avait dit que le prophète alayhi salatu wa salam, il avait dit pas mal de hadiths concernant le chef, le gouverneur, le jour de la résurrection. Il dit que cette personne-là, il n'aura qu'un souhait le jour de la résurrection lorsqu'il va voir le nombre de questions qu'il y a à propos du imara, qu'il souhaiterait ce jour-là, que si jamais, si seulement dans ce monde, je n'avais pas eu cette responsabilité. Mais le jour où les gens s'entretuent pour devenir le chef, pour devenir le leader, pour devenir le dirigeant, d'accord ? Mais le jour de la résurrection, quand les leaders, les dirigeants vont voir comment les autres passent, pardonnez-moi l'expression, passent à la casserole, et ce n'est pas des casseroles de ce dunia, les casseroles de l'au-delà, c'est autre chose, ils vont souhaiter, si seulement de ce monde, on n'avait même pas eu cette responsabilité, même pas pour diriger une ou deux personnes. Et parmi les hadiths qui me reviennent à ce moment, c'est que le prophète alayhi salatu wa salam a dit que pour le dirigeant injuste, le shafa'a, mon intercession est haram pour lui. Le prophète alayhi salatu wa salam a promis que son intercession est haram pour l'oppresseur, celui qui a mal agi envers ses ses compatriotes, les citoyens, envers ses sujets. Ça, c'est une mise en garde extrêmement sévère, alors que nous connaissons que le prophète alayhi salatu wasalam est rahmatan lil alamin. Et il est, alhamdulillah, Allah ta'ala a mis de la bénédiction, de l'amour pour toutes les personnes, que ce soit de ce monde, mais également le jour de la résurrection. Tous ceux qui ont la ilaha illallah, le prophète sallam va, il va demander à Allah l'accord, l'autorisation pour intercéder pour eux, mais pour le dirigeant injuste, le prophète sallam a dit que mon shafa'a est haram sur ces personnes. Et donc ça nous amène vers ce verset. Et entre ces deux points, il y avait mise en garde contre la punition des oppresseurs, le jour de la résurrection, le jour des comptes, les différents châtiments. Et il y avait l'annonce de la bonne nouvelle également pour celui qui a fait les bonnes actions, qui avait la foi et qui accomplit les bonnes actions. Et on a eu l'occasion de faire la relation entre iman et amal al-saliha. On avait dit que les deux choses sont indissociables, d'accord. Et on a vu également que le discours du Coran, c'est entre le tarhib et le tarhib. En même temps, Allah subhanahu wa ta'ala annonce les châtiment, mais en même temps Allah subhanahu wa ta'ala annonce les bonnes nouvelles. Et ça, c'est la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Il y a toujours des versets qui annoncent des bonnes nouvelles. Ensuite, il y a les versets avec ça, des versets qui annoncent les versets qui annoncent les châtiments, et avec ça les versets qui annoncent la bonne nouvelle, les récompenses pour celui qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant donc, Allah Azza wa Jalla de ce verset dit que inna batasha rabbika lashadid, la riposte de ton Seigneur est redoutable. Alors cette riposte de ton Seigneur, quand la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat sur l'oppresseur, sur les gens qui ont mal agi, sur les gens qui ont fait du tort, la colère d'Allah Azza wa Jalla, c'est exceptionnel. Tout comme la rahmat d'Allah Azza wa Jalla, elle est indescriptible. Quand Allah décide de punir également, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer, on peut essayer de se figurer toutes les tortures qu'un être humain puisse infliger à un autre être humain, mais quand on parle des châtiments de l'au-delà, quand on parle du Jahannam, c'est un autre niveau de azab. Tout comme on ne peut imaginer, on ne peut concevoir les bienfaits du paradis. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille n'a jamais entendu. Et pour vraiment parfaire cette différence qui est entre ce bas monde et l'au-delà, il y a ce troisième paramètre, là c'est implacable, ce qu'aucun cœur ne peut imaginer, aucun être humain ne peut même concevoir, imaginer, même si on a un esprit qui va très loin, on ne peut pas imaginer 1% des bienfaits du paradis. Mais attention, pour le Jahannam c'est pareil, le hadith, mon Shamil n'englobe pas le Jahannam, mais comprenez qu'à travers les descriptions de l'enfer, on comprend qu'aucun être humain ne peut imaginer quelles sont les tortures, les châtiments qu'il y a dans l'enfer. Je sais que cette deuxième partie du discours, on n'aime pas l'entendre. On aimerait juste parler du paradis, l'accès au paradis, les bienfaits, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, tout ça, etc. et tout ce qui vient avec. Mais quand on parle de l'enfer, alors là, là c'est l'autre partie, il y a quelqu'un qui m'attend. Ou alors on dit que oui, mais il ne faut pas faire peur aux gens. Je suis d'accord qu'il ne faut pas faire peur aux gens, mais il ne faut pas trop donner, faut pas donner que de l'espoir. Si on a un discours qui va que dans l'espoir, on va tomber dans ce qu'on appelle al-irja. Al-irja, c'est un mouvement, malheureusement, il y a encore des traces de nos jours, ceux qui dissocient ceux qui dissocient la foi des bonnes actions. Pour les ahlul irja, les murji'a, bon après il y a différents cadres, les murji'a, murji'a al-fuqaha, etc. Selon eux, il suffit d'avoir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah dans le cœur, et puis les actions c'est secondaire. Mais comment on accède au paradis si les actions sont secondaires? Et qu'est-ce qui différenciera mon iman de l'iman d'Abu Bakr al-Siddiq, mon iman de l'iman d'Umar ibn al-Khattab et d'autres personnes, et le iman du munafiq? D'accord? Ahlul irja, pour eux, les bonnes actions c'est secondaire, le plus important c'est d'avoir la foi. Et puis il y a l'autre extrême. Si on va que dans les versets de mise en garde, là aussi c'est un mauvais discours. Attention, le adab d'Allah, le châtiment, etc. Si on parle trop de ça, les gens, ils ne vont, il y a un moment donné, la conception de la rahmat d'Allah, la compréhension, la yaqin, la conviction plutôt, sur la rahmat d'Allah, la miséricorde, la clémence, la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, risque de sortir du cœur des gens. C'est pour ça que dans le Coran, il y a toujours, on peut dire, un mixage entre les deux, le tarhib et le tarhib. Ayatul azab, ayatul al-jannah, les récompenses. Et il faut bien comprendre que les personnes qui se sont focalisées uniquement sur les mises en garde, mais attends, avant d'arriver au ashab ou au takfir, il ne faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets, dans les hadiths plutôt, sur le trône d'Allah, c'est écrit que sa rahma, a pris le dessus sur sa colère. Et donc on comprend bien que la rahma d'Allah, elle est plus importante que la colère d'Allah. C'est pour ça que dans un discours, on ne doit pas focaliser sur les punitions, sur les châtiments, sur les mises en garde et sur les azabs. On doit donner un peu plus d'importance sur les bicharas, les bonnes nouvelles. Quand le prophète dit « Bashiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru » rendez les choses faciles, annoncez les bonnes nouvelles. Mais on annonce également, on met en garde également, mais la mise en garde c'est comme une petite conclusion. Attention quand même, il y a tel châtiment, il y a telle mise en garde si on ne fait pas ça. Mais l'essentiel du discours doit aller dans le bon sens. Parce que ceux qui se focalisent uniquement sur les mises en garde risquent de sombrer dans ce qu'on appelle à l'époque des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, les khawarij. Et des khawarij, de nos jours, on appelle ça les sahabu takfir, ceux qui disent que oui, lui il a dit ça, il est kafir, lui il fait ça, il est kafir, et tout le monde est kafir, et à la fin il restera que lui. Donc il va faire sa prêche tout seul, il va faire sa salat tout seul, parce que selon certains courants, hein, alhamdulillah ici il n'y en a pas, selon certains courants, celui qui fait un guna kabira, un péché majeur, il fait le kufr, il quitte la foi. Donc ces personnes n'ont pas la conviction, le yaqin, sur la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas oublier qu'Allah Azza wa Jal agit envers son serviteur en fonction de la, le mot n'est pas bien choisi, en fonction de la conception qu'on a sur notre Seigneur. Si on se dit qu'Allah Azza wa Jal, il est clément, il va pardonner, j'ai fait des erreurs mais je demande des tawbah avec les conditions, avec sincérité, Allah va me pardonner, Allah te pardonnera. Mais si on se dit que non, Allah ne me donnera aucune chance, c'est fini pour moi, inutile de faire les bonnes actions, mais Allah Ta'ala va agir de la sorte également. Donc nous voyons dans le Coran, il y a les deux discours. Et là, il n'a pas ton chat, Rabbi Kalashadid, donc la punition, la riposte de ton Seigneur est redoutable pour celui qui a mal agi, et en rapport avec les versets, les histoires qu'on a citées, et la punition d'Allah peut intervenir dans ce monde. On a vu l'histoire de Qarun, de Pharaon, etc., de Namrud, les personnes qui ont, les grands ennemis de l'islam qui ont été détruits par Allah, et c'était des morts exemplaires. Et ça nous permet d'aborder la troisième sagesse que nous avons oublié de dire par rapport à l'histoire du Pharaon, qui me rappelle le verset qu'on a laissé ton corps pour être un signe pour les gens. J'ai pas le début du verset en tête. Si quelqu'un se rappelle, il me dit, Inch'Allah, dans l'histoire du Pharaon avec Moussa alayhi salam, dans le Coran, Allah Ta'ala annonce qu'il a laissé le corps de Pharaon pour que ce soit un rappel, en ce sens, que ce soit un rappel pour les gens. D'accord? Ça, c'est la troisième sagesse. Quand Allah Ta'ala décide de laisser parfois quelqu'un faire le mal, Allah peut le punir à un moment donné ou ne pas le punir. Mais dans tous les cas, il y a un rappel pour les gens. Comme les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, une fois, ils étaient persécutés, on est à l'époque de Mecca, dans le Ahd Makki, ils sont près de la Kaaba du prophète d'Allah, regarde ce qui nous arrive, regarde comment les mécréants agissent, comment on est persécutés. Et vous savez, ils rigolaient pas les Quraysh à Mecca. C'était pas que de l'islamophobie, c'était de la... Ils tuaient la tuophobie là-bas, ils rigolaient pas, c'était vraiment couper la tête, couper les mains, torture. Quand on voit l'histoire d'Azad Bilal, radiallahu ta'ala anhu, quand on voit l'histoire de Alou Yasser, on avait projeté le film de la Sirat avec nos élèves à la madrasa, c'était magnifique, exceptionnel. À des élèves qui ont complété le cursus de la Sirat, le message, ou le messager, je ne sais pas qu'on appelle en français, qui dure 3 heures de temps, exceptionnel. On peut l'avoir vu plusieurs fois, ça touche, ça fait bouger les cœurs, ça fait bouger le iman. Quand on voit, bon, c'est une représentation bien sûr, quand on voit ce jeune qui embrasse l'islam, qui convainc ses parents, que son papa, sa maman, qui sont âgés, embrassent la religion, et puis ils sont persécutés, ils meurent devant les yeux de leur fils, hein, ça nous rappelle ce hadith, c'est une mise en scène bien sûr, mais là ça nous rappelle le hadith que notre prophète alayhi salatu wassalam avait expliqué qu'il avait... Il avait vu les Alou Yasr, la tribu, hein, ces personnes-là, il était passé près de ces gens-là qui étaient, en ce moment, torturés par le Quraysh. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même était affaibli. Lui-même ne pouvait pas défendre ces gens. Ces gens-là ont bien voulu le croire par la grâce d'Allah, ils ont eu iman en lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam sait que ces tortures sont les conséquences directes de leur foi. Ils sont torturés devant le prophète alayhi salatu wassalam. Pensez. Il y a parfois il y a des gens qui disent que oui, il nous manque quelqu'un, un imam, il faut quelqu'un de fort et tout pour qu'on ramène le Isa pour le musulman. Mes chers frères, le prophète alayhi salatu wassalam est présent et des gens qui sont autour de lui, parfois des proches, sont torturés au nom de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Est-ce que la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'auraient pas été suffisants pour que ces gens-là arrêtent? Bien sûr que oui. Mais comprenez bien qu'il y avait là la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Bilal ibn Rabah radiallahu ta'ala anhu a été autant persécuté, si Soumaya radiallahu ta'ala anha a donné sa vie, elle a été torturée, écartelée, morte dans le chemin d'Allah. Si Al-Yas et le papa comme la maman devant leur fils ont été torturés et exécutés, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien voulu et qu'il y avait une sagesse dedans. Pourquoi le musulman il meurt opprimé? Pourquoi il lui arrive ça? Et pareil pour tous nos frères musulmans dans différentes régions du monde qui meurent opprimés. Mais sachez que la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accorder à celui qui a perdu la vie parce qu'il voulait garder la ilaha illallah, ou alors qui a été insulté, humilié par rapport à sa religion, par rapport à son dîn, la récompense au jour des comptes, elle est exceptionnelle. Et quand on parle du jour des comptes et qu'on parle de récompense, c'est pas comme les récompenses de ce monde. Celui qui a, hadith qu'on a déjà répété plusieurs fois, celui qui a vécu dans la maladie, dans toutes les difficultés, l'homme le plus éprouvé de ce monde, verra le paradis, pardon, le Jannah, une seconde, ça lui fera oublier tout ce qu'il a pu connaître comme difficulté. L'homme le plus riche, le plus célèbre, le plus adulé, le plus aimé par les gens, l'homme le plus heureux, le plus comblé de l'histoire de l'humanité, verra une seconde l'enfer, ça lui fera oublier tout ce qu'il a pu connaître comme bienfait dans ce monde. Parce que ce monde et l'au-delà, il y a une relation directe. Ce que tu fais là, tu récoltes là-haut, bien sûr, mais on ne compare plus. Ce sont deux mondes différents. La relation spatio-temporelle, elle est différente, parce que dans ce monde, il y a des règles qu'Allah a fixées, c'est la règle des humains. Mais le jour des comptes, c'est la règle des gens de l'au-delà. C'est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur al-Bari, azza wa jal. Et ensuite, c'est le ilmul ghaib. C'est le monde de l'invisible, avec des créatures démesurées. Des créatures que, subhanallah, je relisais encore aujourd'hui dans, je ne sais pas si, oui, j'avais écrit ça, dans Kitab al-Arsh, dans les hadiths concernant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on parle de d'un des anges qui porte le trône d'Allah, ma bayna shuhmati udunayhi wa atiqihi. On va dire en français pour aller plus vite, il commence déjà à fermer les portes là, entre le comment on appelle ça, lobe de l'oreille et ses épaules, il y a une distance de 700 années. Subhanallah, et ça on doit avoir iman yaqin dessus. Rawah al-Tabarani sahih al-Albani, dans le hadith qui dit que il y a subhanallah d'autres anges disent ma bayna ka'bi ahadihim ila asfali qadamayhi, entre la cheville et le bas du pied, masiratu 500 am, une distance de 500 années. Ça, ce sont les créatures de l'au-delà. Ayrod batek zato. Elle explique à Zot que non, ben ton tinar à la moins deux, pas fait zina à moins, mais t'es un peu sous l'effet aussi. Mais explique à lui pourquoi t'es sous l'effet aussi. D'accord? Explique à Zot tout. Là-bas, ils rigolent pas. La ya'asoun Allah ma amarahum, wa yaf'alouna ma yu'marun. Et les gens dans l'enfer disent, wa nadaw ya malik, liyakhdi alayna rabbuk. Non, ils m'ont pas trop tard. Ils vont dire, oh malik, on vient de l'enfer, qu'Allah nous tue maintenant. Les gens, ils sont dans le Jahannam, ils demandent à Malik d'implorer Allah de retirer leur vie. Mais c'est fini. L'ange de la mort a été sacrifié devant l'humanité. Et les gens du paradis, ils ont crié victoire. Quand ils ont vu l'ange de la mort mourir, ils savent que c'est le bonheur éternel. Et les gens de l'enfer, lorsqu'ils ont vu l'ange de la mort mourir, ils attrapent leur tête, ils savent que c'est le malheur éternel. À nous de choisir où est-ce qu'on veut. La relation de ce dunya est là-haut. C'est quelques années, 60 ans, 63, 65 ans, 70 ans, 80 ans, passez ces années dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Faites l'intention, ne serait-ce, de rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites l'intention au maximum de, l'intention maximum de nous éloigner des péchés. Et si on a fait une erreur, parce qu'on n'est pas parfait, on n'est pas des malaïkas. La différence, c'est qu'on n'est pas des anges. Nous, les malaïkas, on a des passions, des pulsions, des fois on tient, des fois on ne tient pas. Celui qui tient, il est muttaqi. Celui qui ne tient pas, il fait des erreurs. Mais s'il a fait un péché par inadvertance, il demande pardon à Allah. Allah Ta'ala, il est rafour rahim. Allah Ta'ala accepte son repentir. Donc, il n'a pas ton charabbi qu'à la shadid. L'iman yastahir qudalik, comme le dit nous Fassirin. La punition d'Allah, il est terrible pour celui qui le mérite. Et cette punition peut toucher la personne, ce monde, ou alors dans l'au-delà. Et quand ça touche dans l'au-delà, ça fait beaucoup plus mal. Comme le verset dit, Ya'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafur rahim. Sachez que Allah Azza wa Jal, j'ai pas la traduction exacte, ça veut dire ça, que Allah Ta'ala est sévère en punition. Les punitions d'Allah sont dures, sont sévères. Mais sachez également qu'Allah Ta'ala est clément et qu'Allah Ta'ala est pardonneur et clément. Dans le verset, Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim. Là, il y a les deux là, informe mes serviteurs, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire Anwar, Abdullah, Ismaïl, Ishaq, tout le monde, Ibadi, annonce à mes serviteurs, Allah Azza wa Jalla, le Prophète, annonce à mes serviteurs, à mes adorateurs, Anni ana al-Ghafur al-Rahim, que je suis celui qui pardonne et celui qui est clément. Wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim, annonce-leur également que mes châtiments sont douloureux. Les châtiments d'Allah sont terribles. Hala. Et là, on voit encore, subhanallah, toujours le juste milieu. Il y a les deux. Paradis, enfer. Bonne nouvelle, mise en garde. Allah est clément, mais attention, celui qui dépasse les limites, Allah Ta'ala peut être également très sévère le jour des comptes, le jour de la résurrection. Et ce juste milieu, mes chers frères, c'est extrêmement important dans le dîn. Parce que quand il n'y a pas de juste milieu, là, on va vers les extrêmes. Ça nous permet, hein, le programme est en deux parties ce soir, on a traité 20 minutes de Inna batusha rabbika la shadid, on verra la prochaine fois Inna huwa yubdi wa yu'id, jusqu'à les autres versets qu'on a cités.